Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Yamina Benhamed Dao, qui vient de publier aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète à la machine. Bonjour Yamina.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous pour cette édition en ligne du
C'est
festival Effraction. Dans À la machine, vous nous racontez l'histoire de Barthélémy Timonier, l'inventeur de la machine à coudre, l'inventeur inconnu, ignoré de la machine à coudre. Quand vous l'avez découverte, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire de cet homme ? Dans une interview, vous avez dit « Barthélémy Timonier m'a eu par les sentiments. Je n'ai pas pu rester insensible à cet enchaînement de désastres qui a rythmé sa vie. » Et c'est vrai que le mot « guigne » revient plusieurs fois dans le roman.
Oui, absolument. C'est vraiment, je pense, un moteur sentimental qui a éveillé un désir d'écriture. D'abord, parce que d'abord il y avait un désir presque affectif, parce que c'était lié à une conversation avec ma mère autour de sa singère, qui est là qui est au centre de notre salle à manger depuis extrêmement longtemps, et au détour d'une conversation parce que je lui demandais où elle avait eu cette machine et comment elle est arrivée là, tellement elle était immense, etc., que je me suis posé la question en effet de savoir si Singer était bien cet inventeur et puis qui il était. Et là j'ai découvert finalement que c'était pas du tout Singer, l'inventeur de la machine à coudre, que c'était une escroquerie commerciale. Et je suis donc tombée sur l'histoire de la machine à coudre, qui est une petite biographie écrite par Messin, qu'on trouve sur le site de Gallica. Et en quelques pages, on découvre, parce que c'est un texte qui était destiné en fait aux députés à l'époque, en 1870, à doter sa femme Madeleine d'une bourse pour terminer sa vie, parce qu'elle était extrêmement misérable. Et là, j'ai découvert en quelques pages, en effet, la vie absolument désastreuse de cet inventeur et donc l'inventeur, en fait, plus précisément du métier à coudre et surtout du mécanisme de l'aiguille, du piquage. Et qui a essayé, malgré tout, au XIXe siècle, d'imposer ce métier à coudre. Mais en fait, c'est une immense bataille assez sauvage, commerciale, qui l'a fait tomber dans l'oubli. Donc, il en est véritablement l'inventeur. Mais la preuve est dans cette mini-biographie. Et j'ai voulu découdre ces petits éléments que j'avais trouvés là pour comprendre pourquoi il n'avait jamais réussi à imposer son invention, et surtout pour trouver une explication au moins politique, au moins sociale et économique, de cette misère, en fait, de ces échecs.
Oui, parce qu'il n'a pas juste pas réussi à imposer son invention, c'est-à-dire qu'il a vécu dans la misère la plus totale, alors que Singer, que vous évoquiez, est mort multimillionnaire.
Absolument, absolument. Donc, c'est deux trajectoires pour quasiment une même invention. Et ça, j'avais vraiment envie de me l'expliquer. Je trouvais que sur un plan vraiment narratif, il y avait comme un roman d'aventure à écrire, ou plutôt même un roman de mésaventure, parce que ça n'est que ça, en fait.
Il fait confiance aux gens et à chaque fois, il ne devrait pas. Et puis, il fait à nouveau confiance parce qu'il n'a pas le choix non plus. C'est-à-dire qu'il
voilà,
n'a pas d'argent,
donc
il s'associe à des gens plus fortunés qui lui permettent, qui lui offrent la perspective de pouvoir diffuser cette machine. Et à chaque fois, il se fait avoir, mais bien comme il faut.
Oui, exactement. C'est quelqu'un qui est plutôt de bonne volonté, qui a vraiment un génie. Hein. C'est même pas du talent. C'est vraiment un génie pour cette invention. Seulement, il est pris dans son siècle, un siècle auquel lui, il semble croire vraiment pleinement. Mais il est toujours freiné parce que, comme de nos jours d'ailleurs, nous on pourrait dire qu'on est dans un siècle plutôt numérique, lui c'est le siècle industriel. Seulement, imposer son invention, c'est évidemment au prix en fait de rencontres, et souvent de rencontres malveillantes, abusives, parce que il y a énormément d'argent en jeu, quoi.
Et c'est ça qui a fait la différence avec Singer, l'argent dont il disposait à l'origine, mais également l'idée de Singer, l'intuition de proposer cette machine à coudre aux femmes, c'est-à-dire de ne pas se mettre à dos les artisans et de plutôt être dans une communication, dans une publicité qui s'adresse aux femmes.
Oui, absolument. Je pense que la grande différence, déjà Singer, il impose sa machine aux femmes, aux États-Unis et notamment à New York et aux alentours. Barthélémy Timonier, il grandit à Honpleu-Puy. Bon, je pense que déjà entre un pied New York, il y a déjà, c'est déjà deux mondes. Et en effet, ce sont des systèmes où je raconte justement, en effet, dans le livre, comment Singer a réussi notamment à acquérir des brevets, qui est un système extrêmement complexe, mais finalement, lorsqu'il arrive à acquérir tous ses brevets, à les racheter, il peut, lui, s'adresser et puis il crée une sorte de fable commerciale parce que son premier élan, c'est de s'adresser aux artisans, aux tailleurs new-yorkais, aux tailleurs juifs new-yorkais qui la repoussent, cette machine à coudre. Singer veut imposer absolument cette machine, donc il crée une fable en se disant « je vais l'adresser aux femmes » et ça va devenir un outil d'intérieur. Et là, on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine de l'invention, mais dans le domaine de la commercialisation et de la commercialisation vraiment sauvage. Il suffit finalement de trouver les bons clients pour imposer un objet nouveau.
Et vous l'écrivez, le travail à domicile devient l'usine chez elles. Elles sont enchaînées à la machine, captives de leurs commandes qui rapportent péniblement moins de 2 francs par jour. Donc on voit comment, et c'est aussi ce qu'on va suivre avec l'invention de Barthélémy, comment est-ce qu'une machine qui est pensée pour libérer les personnes qui travaillent, en se disant ça va alléger la charge de travail, comment est-ce qu'en fait ça devient un outil, au contraire, qui aliène et qui permet aux grands industriels d'encore plus exploiter les ouvriers, en tout cas toutes les personnes qui travaille avec ces outils. Parce que lui, il y croit vraiment, Barthélémy. Et vous l'écrivez ça aussi. Il voudrait être l'inventeur qui, grâce à sa mécanique, allège la dureté du travail. Il est en réalité celui qui fournit à l'industrie le moyen d'imposer des salaires honteusement bas. C'est ça qui est dramatique aussi dans son histoire.
Oui, oui, absolument. Et moi, quand j'écris, j'aime bien que l'histoire puisse être pétrie de contradictions. Ça ne m'intéresse pas tellement d'aller dans un chemin A au point B en disant « j'ai une vérité à énoncer ». Je trouve que c'est vraiment intéressant de soulever toutes ces contradictions. Et là, la contradiction, c'est qu'en effet, Timonier, lui, il a vu sa femme brodeuse. Il sait qu'en tant que tailleur, il peine, que c'est un métier extrêmement difficile manuellement et que la machine peut alléger le travail. Seulement, on est dans un siècle où la propriété des machines appartient à certains, pendant que d'autres l'utilisent. Et les utilisateurs sont ceux qui sont pénalisés, puisque ce sont les ouvriers. Et la répartition du coût de l'économie est absolument inégalitaire. Donc ça, c'est quand même, je trouve, assez intéressant de soulever ça. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement le propriétaire de son invention. Et on peut être un inventeur génial en souffrant de se l'avoir confisqué, d'une certaine manière, par de simples principes économiques inégalitaires. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant. Et puis chez Singer, je trouve que quand l'acquisition des machines, que ce soit dans les grandes usines, dans tous les pays du monde, jusque dans les maisons personnelles, ce que je trouve quand même assez frappant, c'est à quel point ça reflète en fait notre société à nous, et notamment avec la figure de l'auto-entrepreneur, où on a poussé les gens en fait à adopter ce régime, et on voit bien à quel point on a été dépossédé par rapport à un salariat protecteur de tas de protections.
Et avec, là encore, la fable politique, c'est-à-dire la fable de, avec quelques exemples, c'est-à-dire les quelques exemples d'auto-entrepreneurs qui vont effectivement très bien s'en sortir et vraiment bénéficier de ce statut, qui est d'un seul coup montré en exemple, alors qu'effectivement, il y a derrière toutes celles et tous ceux qui ne s'en sortent pas. Et ça aussi, vous cherchez dans le roman à défaire cette fable politique. Le mot fable revient plusieurs fois dans le roman.
Oui, le mot fable revient souvent dans le roman parce qu'il me semble que d'abord, on a fait de comment dire, des inventeurs malheureux une fable émotionnelle et empathique, en se disant, voilà, certains voilà, sont morts dans la misère, etc., il faut rétablir leur mémoire. Moi, il me semble qu'on ne peut pas s'en tenir là. Là, on a une vraie fable politique qui consisterait à dire, oui, il y a beaucoup de malheureux, mais comme vous dites, pour 100 malheureux, un s'en sort, et donc c'est déjà un bon prix à payer. Il me semble qu'il faut rétablir cette fable, parce que sinon, on entre dans la figure de l'inventeur, en fait, martyr, qui est très bien traité par l'historien François Jarige. Et qui démonte aussi cette fable. La réalité, c'est qu'on a un système économique et politique extrêmement cruel, extrêmement dur, qui fait tomber dans la misère, malgré eux, des tas d'inventeurs, aujourd'hui d'auto-entrepreneurs, qui sont une force de travail en général considérable, mais qui s'épuisent à la tâche parce que le système ne leur permet pas en fait de s'en sortir. Donc dès lors qu'on met un personnage dans son siècle, on commence quand même à mieux comprendre les mécanismes qui l'ont fait tomber dans cette misère.
Vous nous avez raconté comment vous avez découvert Barthélemy Timonier, comment est-ce que vous avez commencé à vous renseigner à son propos. Justement, quelles ont été vos lectures et à partir de quel moment vous avez pressenti que ça pourrait être un personnage, que vous alliez pouvoir lui écrire sa vie. On va revenir sur cette idée de vie puisqu'on ne découvre pas toute sa vie dans ce roman. C'est aussi là un choix littéraire très important, un choix politique aussi. Mais comment est-ce que vous vous êtes documenté et à partir de quel moment est-ce que vous avez su et est-ce qu'on sait en fait ? Est-ce que vous avez un petit peu testé ou est-ce qu'à un moment ça a paru clairement que vous vouliez le mettre en scène dans un roman.
Le désir de le mettre en récit, il arrive très tôt. En revanche, j'ai quand même navigué pendant des années avec des grands moments de doute pour savoir si vraiment ça allait fonctionner. Parce que comme il fallait tout déconstruire... finalement pour ne pas justement être dans la fable de l'inventeur misérable et s'apitoyer sur ce seul sort-là, c'était très compliqué. Donc il m'a fallu en effet beaucoup, beaucoup de lectures. Et à cet égard, je dois beaucoup, beaucoup de choses à un chercheur donc, comme François Jarige, qui a beaucoup écrit sur les machines et notamment sur les luttes contre les machines et la destruction des machines. Au XIXe siècle, sur le travail de Gabriel Galvez-Béart, qui est aussi un chercheur qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les brevets et le fonctionnement de l'acquisition des brevets avec les chaînes intermédiaires entre justement l'inventeur et la commercialisation, qui sont des chaînes extrêmement complexes. Il m'a fallu aussi lire Fernand Ruth sur la révolte, qui a écrit sur la révolte des Canuts, qu'on ne présente plus. Voilà. Et puis, il y a les travaux de toujours l'immense Arlette Farge, qui a aussi beaucoup travaillé sur les conditions de vie des artisans. Mais ces lectures, elles m'ont à la fois portée, à la fois c'est assez décourageant, parce qu'on se dit qu'on ne sera jamais à la hauteur de ces figures de chercheurs. Mais à un moment, j'ai repris confiance et je me suis dit, bon, toi, ton domaine, c'est la littérature, c'est pas la recherche, c'est pas l'histoire, donc normalement, on devrait réussir. Et il y a un moment, j'ai réussi à baliser vraiment l'écriture, d'abord en me disant, il faut absolument que Timonier soit toujours dans son siècle. Ça, il faut vraiment qu'on le perde jamais de vue. C'est pas un personnage errant, il est pas tout seul comme ça dans la société. Il faut qu'il soit en interaction tout le temps pour que chaque mésaventure ait une forme explicative, disons, politique, sociale et économique. Et la deuxième chose, comme je voulais pas me lancer dans un genre auquel je ne crois pas beaucoup, qui est l'exofiction, parce que moi, je tenais à être dans le roman, en fait. Je ne voulais pas partir de sa naissance à sa mort, donc pour éviter l'aspect biographique. Donc, j'ai choisi, et je crois qu'à partir de ce moment-là, ça m'a donné un peu confiance, de partir du début du livre, de la naissance de la machine, donc de la naissance de l'invention jusqu'à son démontage et d'une certaine manière sa mort, parce que la naissance de Timonier, c'est un peu la naissance de sa machine et le fait que les deux devaient être un personnage.
En fait,
exactement.
Ouais.
Il fallait que ça soit pas la vie de Timonier, il fallait que ce soit la vie de Timonier et de son invention.
Et vous parliez des livres que vous avez lus, vous l'avez dit, c'est des personnes qui forcément vous ont été essentielles dans l'écriture de ce roman. À quel moment est-ce qu'on s'arrête ? Parce que j'imagine qu'à chaque fois qu'on lit des nouvelles choses, on prend des nouvelles notes, on a des nouveaux documents, de la nouvelle documentation, on se dit « Ah tiens, est-ce que ça, je pourrais l'intégrer ?» Donc à un moment, j'imagine qu'il faut se dire « Stop, je ne lis plus rien et je suis en train d'écrire mon roman maintenant avec tout ce que j'ai accumulé, tout ce que je sais maintenant, mais il faut à un moment se détacher de tout ça, j'imagine.
Oui, moi j'ai eu très peur d'écrire en me disant je vais les imiter, les mimer. Et puis à partir d'un certain moment, je me suis dit non, en fait, moi, j'ai reçu un enseignement, en fait, vraiment de ces chercheurs avec leur thèse, leur recherche. Et j'écris avec ça en tête, avec ces notes. Et donc, j'ai assumé ce fait-là à un moment. Parce que sinon, en fait, on se dit, bon, j'ai un peu trop peur de prendre du Fernand Rudd sans m'en apercevoir. Je ne voudrais pas être une vulgaire plagiaire. voilà. Et donc, bon. Et finalement, on digère tout ça. Et puis, je me dis que c'est un travail assez salvateur. Parce que moi, je fais rencontrer, du coup, Farge, Jarige, Galvez Béart, Rudd et d'autres. Donc, je me dis qu'on n'en voudra pas trop, en fait, de m'être reposée dessus. Et il y a un moment, oui, il faut que ça s'arrête. Mais finalement, jusqu'au bout, j'ai continué à lire et à prendre des notes, même dans mes moments de réécriture, parce que j'ai trouvé des conférences, par exemple, absolument géniales sur la musique dans les expositions universelles, etc. Enfin, et donc, je me suis prise un peu de passion. J'étais à la fois un peu débordée, mais je trouvais ça aussi un peu passionnant. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai même pas arrêté parce que maintenant, quand je lis un article récent de Jarige, je me dis, ah tiens, là-dedans, il y a du timonier. Je lis un article de journal sur une machine à coudre quelque part dans le monde. Je me dis, ah tiens, ça aurait pu être dans le livre. Donc en fait, je m'arrête plus. Mais ça va passer quand j'aurai entamé un autre travail, sûrement.
Et on parle des lectures que vous avez eues. Il y a des images aussi qui vous ont nourri, comme les temps modernes, qui vous ont accompagné dans l'écriture de ce roman.
Oui, disons que c'était... disons que parfois, comme on n'a pas d'image hors un portrait de timonier, parfois, en effet, c'était vraiment des images de Charlot qui me venaient à l'esprit, en fait, quand j'écrivais. Je me disais, c'est assez frappant comme ces deux personnages. Et en fait, ce qui ne m'étonne pas, parce que dans les Chaplin, finalement, on retrouve un siècle industriel extrêmement féroce, en fait, avec un personnage qui en devient presque... risible mais touchant tellement il est humain parce que il est renvoyé à sa condition humaine propre, c'est-à-dire à peu de choses et à cet aspect mécanique, et c'est l'aspect mécanique de l'humain qui le rend risible. C'est pas le fait qu'il soit un homme et qu'il soit maladroit, c'est la façon dont on l'a transformé en machine. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de lui. Ouais, j'ai fait un petit peu ce rapprochement sans que le film m'ait accompagné, mais comme c'est un peu dans notre culture que c'est intégré, c'était des images que je pouvais voir en écrivant.
Et dans l'écriture, comment est-ce que vous avez amorcé le début de ce roman, puisqu'on trouve quatre prologues au début de ce roman? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils étaient là dès le début? Comment est-ce que vous avez décidé finalement d'effectivement explorer quatre origines en fait à cette histoire?
Alors, c'est arrivé très tard, en fait. C'est quasiment arrivé à la fin. Parce que c'est pas le vrai début, mais ma première version de début, c'est la version anthropologique. Parce que j'avais envie de travailler sur la transmission. Je trouvais ça vraiment. Moi, je trouve ça très touchant qu'une aiguille à chat fabriquée au Paléolithique soit encore utile en 2021. Il y a quand même assez peu d'objets qui ont traversé l'humanité en autant de milliers pendant tant de milliers de siècles.
Puisque, je le disais, il y a quatre prologues, quatre naissances de l'idée, l'origine romantique, l'origine anthropologique, l'origine psychanalytique et l'origine politique.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais commencé simplement par la version anthropologique. Et c'est avec une conversation de mon éditeur sur le texte, donc qui n'avait rien à voir avec ça. Mais du coup, quand je l'ai repris... moi-même, je me suis dit, en fait, la fable de l'inventeur martyr, si on la déconstruit, il faut aussi, en fait, déconstruire l'idée de l'invention. Parce que moi-même, je me posais la question, on se dit, mais comment vient l'idée? C'est une vraie question, ça, quand même. Et quand on la pose même aux auteurs ou aux artistes, c'est quand même un sacré défi d'y répondre. Et donc, je me suis amusée, et je trouvais que sur un plan littéraire, c'était quand même assez intéressant de se dire qu'en fait, L'origine, on peut l'expliquer en effet de quatre manières différentes. Et donc, on peut prendre ces quatre axes et donc ces quatre débuts, mais qui finalement n'en forment qu'un parce que les quatre se complètent. Ils sont à la fois différents, mais ils se complètent.
Et c'est ça qui est passionnant avec, avec les inventions. C'est que c'est des choses où on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui, comme vous le disiez, qu'est-ce qui est à l'origine. Le fait que Singer aux États-Unis fabrique sa machine, il y a des choses qui sont dans l'air du temps. Et en fait, on a l'impression d'avoir une idée originale. Et en fait, c'est dans l'air du temps. Et d'autres personnes, effectivement, ont pas forcément la même idée exactement, mais en tout cas, une idée qui y ressemble.
Oui, absolument. Et ça, c'est propre à... Il y a les travaux de Sophie Archambault-Beaune, qui est anthropologue. Elle écrit très bien ça, où elle montre que, il n'y a jamais qu'une invention humaine. Par exemple, chez l'Homo sapiens, il y a la même invention dans plusieurs endroits du monde. À certains moments, d'où des découvertes de grottes, dans plusieurs endroits du monde avec des outils assez semblables en fait. Pour la machine à coudre, c'est exactement la même chose. Et c'est notamment, ça rejoint l'histoire de Singer, c'est-à-dire que Timonier il invente quelque chose dans son coin en Pleupuis. Bon, au milieu du 19e siècle, il peut pas être au courant qu'un autre Américain travaille sur ce mécanisme. Et or, Singer, lui, il hérite d'un mécanisme qui a été inventé, mais qui a été inventé en fait par Hunt, qui est un autre inventeur américain. Donc, il spolie d'une certaine manière le travail de Hunt et de Timonier. Mais quasiment, on peut dire, Hunt, lui, il le fait quasiment en même temps que Timonier. C'est vraiment une chronologie du brevet. Du coup, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'au moment où on dépose le brevet, c'est le brevet qui définira le premier inventeur, sauf que c'est très délicat, parce que pour déposer un brevet, c'est extrêmement compliqué, ce que je raconte aussi. Et donc voilà, mais ça, je trouve que c'est intéressant dans l'invention de se dire qu'en fait, plusieurs hommes y ont pensé. Et on pourrait très bien écrire une autre vie d'inventeur de la machine à coudre, mais le fait est qu'on a quand même des documents officiels donc, qui témoignent que Timonier est vraiment le premier pour le coup et que ça lui est attribué.
On parlait de l'écriture. Vous nous avez dit qu'à l'origine de ce roman, il y a votre mère, la machine à coudre qui était au milieu de la pièce, le fait de la voir. Et on lit votre regard justement sur votre mère dans ce roman à travers des textes qui sont en italique et qui sont disséminés dans le texte, qui viennent créer une rupture par moment où d'un seul coup on est vraiment avec vous. Comment est-ce que vous avez intégré ces passages à votre récit? Je crois savoir qu'au début, dans une première version, il n'apparaissait presque pas. Il n'y avait qu'un passage sur l'acquisition de cette machine à coudre. Comment est-ce que finalement vous avez intégré ces passages et comment est-ce que vous les avez pensés? J'ai lu que vous les aviez pensés comme des papiers griffonnés ou des photographies oubliées dans un livre. Je trouve ça très très beau comme image.
Merci Sonia. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'idée de cartes postales qu'on aurait pu glisser, vraiment, d'images, de souvenirs. J'avais pas envie que ça prenne trop de place parce que j'avais déjà écrit des livres assez personnels, mais quand même à dimension publique et politique précédemment. Et donc, j'avais glissé seulement, en effet, un passage sur l'acquisition et le voyage de la Singer de ma mère, parce que c'était à l'origine du livre, en fait. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit dans le livre, parce que j'avais envie qu'on comprenne aussi que ça venait d'une conversation, et en plus que ça venait, du coup, de la Singer, parce que, du coup, je trouvais que c'était assez pertinent de revenir là-dessus. Et sur une première conversation avec mon éditeur, lui, ce passage, il l'aimait vraiment beaucoup. Et il me disait de pousser cette idée. Donc je ne savais pas comment j'allais la pousser et l'intégrer. Mais finalement, très rapidement, l'idée qu'en effet d'insérer des souvenirs, des images assez progressives sur une temporalité du coup qui évolutive de l'enfance jusqu'à l'absence de ma mère. En relisant en fait mon manuscrit, ça s'est quasiment imposé, j'ai pas eu de difficulté, j'avais pas l'impression d'entrer dans le texte avec quelque chose de trop de trop intime, de trop le bousculer. Bien au contraire, je trouvais qu'en fait, ça marchait, ça fonctionnait très bien sur un plan narratif et ça donnait presque de l'épaisseur à Timonier et à sa machine, en fait.
Ça donne de l'importance à la machine. Ouais, on exactement, voit bien à quel point, ouais. Justement, lui, vous disiez, vous l'avez traité comme un seul et même personnage. On voit comme votre mère et la machine aussi, à un moment, sont très liés dans les souvenirs que vous avez.
Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est l'idée que, enfin, vous me le révélez maintenant, mais c'est vrai que c'est ça. J'étais vraiment obsédée moi par l'idée que mon personnage ce serait Timonier et sa machine. Sur ma mère, ça m'était moins apparu, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Il fallait toujours qu'elle soit liée à la machine, parce que moi, j'ai vraiment des souvenirs d'elle vraiment avec la machine, et toutes les deux ne font qu'un, quoi. Et voilà, je trouvais que c'était ça donnait de l'épaisseur, et je trouvais que c'était aussi une manière de travailler le fil de la transmission et du coup le caractère anthropologique de la narration, parce que voilà, on a inventé l'aiguille à chat au paléolithique et on sait qu'encore aujourd'hui la machine a parcouru les siècles.
Et c'est aussi, du coup, en creux, un hommage à votre mère, à ses gestes. Et vous décrivez comment, à 35 ans, vous vous êtes mise à apprendre à utiliser cette machine. Et vous parliez de ses gestes. Dans le roman, je vous cite, vous écrivez « Je veux pouvoir les acquérir pour que ces gestes me traversent comme un héritage purement physique, exclusivement technique. » Là aussi, c'est donner de la force à la machine, de voir comment est-ce qu'on peut être lié aux êtres chers par cette machine, par la mécanique, par des objets qui nous relient entre nous.
Oui, et je trouve qu'en plus, là encore, c'est une contradiction moi, que je trouve intéressante, parce que on a beau être dans un siècle industriel où la machine prend énormément de place et on sait que, d'une certaine manière, elle est source de souffrance et d'inégalités extrêmement violentes sur un plan économique. Cela étant, la machine a vraiment une valeur sentimentale, sensorielle, extrêmement importante. Et je trouve que c'est là... Moi, j'aime toujours écrire dans la contradiction. Et je trouve que soulever ça, c'est aussi une manière de se dire c'est vraiment un objet... finalement symbole de toutes les horreurs et de tout ce qu'on pourrait rejeter politiquement. Néanmoins, ce qui reste de mon enfance et de ma mère, c'est qu'elle était extrêmement douée pour la couture, quelque chose qu'elle a acquis en plus seule. Et bon, comme on avait beaucoup d'écart d'âge, moi, elle n'a pas pu m'apprendre, mais j'ai eu envie à un moment, en effet, de me dire j'ai envie d'avoir quelque chose d'elle. Et donc, j'ai pris des cours pour au moins avoir les bases et ensuite le faire toute seule. Je suis une piètre couturière, mais enfin, je sais maintenant me servir d'une machine à coudre et ça me suffit amplement pour me dire que ouais, je partage quelque chose. Puis c'est... Quand on grandit, on s'aperçoit que l'enfance prend de plus en plus de place et que comme on n'a pas trop envie que ça s'efface, on va chercher des choses pour les maintenir dans notre esprit. Et donc, je me disais que d'acquérir ces gestes, c'était une manière de que l'enfance ne s'efface pas complètement.
Et vous racontez, effectivement, il y a quelque chose de très poétique et très beau quand vous décrivez ces gestes, et tout en disant que vous, enfant, effectivement, le dimanche, normalement, on ne touchait pas à la machine à coudre, et le dimanche, eh bien, vous sautiez sur votre mère en disant ben non, il y a ça à repriser, il y a ça, il y a une couture à faire, il y a quelque chose, et avec le recul, voir comment, bien évidemment, c'était pas une ouvrière à proprement parler, comme les ouvriers et les ouvrières qu'il y a dans votre roman, mais le parallèle est intéressant de se dire que même au sein de la cellule familiale, en fait, ça peut être un asservissement.
Oui, absolument. Oui. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre, à la fois quelque chose qui rend énormément service, parce qu'on peut, faire des habits magnifiques pour soi. Mais en effet, il y a quelque chose où la machine, en fait, était... moi, j'ai le souvenir de l'avoir entendue quasiment en permanence. Et les jours où ma mère s'accordait un temps de repos, les enfants sont toujours un peu ingrats, venaient toujours réclamer quelque chose, un raccommodage, une nouvelle pièce. La gentillesse de la mère fait qu'elle se lève et qu'elle va à la machine. Mais voilà, c'était pour témoigner du fait qu'en effet, la machine prend énormément de place et qu'elle était toujours présente. Et j'ai des retours là de lectrices, de lecteurs qui me disent que c'est exactement la même chose, en fait. Et là, pour le coup, Singer a vraiment réussi son coup, quoi. C'est vraiment une machine dont on ne se passait plus, quoi.
mais vous faites aussi le parallèle avec aujourd'hui, puisque quand vous décrivez votre apprentissage de tout ça, vous expliquez la promotion du do-it-yourself, et qui en fait, derrière, sous couvert de dire c'est génial, vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez parce que vous allez avoir des pièces uniques, derrière, c'est quand même le démerdez-vous.
Oui, c'est ça, c'est la définition. Bah, c'est un peu, oui, la définition, à mon avis, du do-it-yourself, en fait. Hein. C'est plutôt, oui, débrouillez-vous plutôt que faites par vous-même, je pense, la traduction officielle. Et oui, je pense que ça, c'est la version, pour le coup, de la commercialisation sauvage et de la pensée politique, disons, ultra-libérale qui avait déjà commencé avec Singer, en fait. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut tout faire soi-même, sauf que l'idée n'est pas qu'on fasse les choses soi-même, c'est qu'on les fasse ensemble pour faire société. Ce serait ça, un vrai projet politique d'intégration des machines, mais de la même manière qu'on intégrerait aujourd'hui l'outil, comme on dit, l'outil numérique, les ordinateurs. L'idée n'est pas de l'intégrer pour qu'on puisse se débrouiller seul. L'idée est qu'il nous permette en fait d'évoluer socialement tous ensemble, en fait. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on est dans un objectif plutôt de survie individuelle, ce qui ne me semble pas être un projet politique et humain, enfin, franchement, très réjouissant, quoi.
Et vous parlez de l'emploi des mots, et c'est quelque chose d'important, et c'est ce que vous cherchez aussi à faire dans À la machine, c'est-à-dire c'est ce que peut la littérature, mettre les bons mots, et on revient sur cette idée de fable, mais d'un seul coup de dire ce qu'il y a derrière et de dire les mots justes pour décrire une réalité.
Ouais, moi je suis assez, assez contente, en fait, c'est ce qui, je crois, me réconcilie vraiment avec le monde d'écrire, parce que je crois que là on a vraiment un espace pour non pas protéger les mots pour qu'ils n'évoluent pas, etc. Bien au contraire, ils ont une vie qui est très longue et ils sont protéiformes et il faut les utiliser comme tels. En revanche, il me semble que la littérature, là, doit être, enfin, en tout cas, permet d'être une forme d'espace de lutte contre un lexique qu'on qualifiera rapidement de managérial, qui moi me hérisse, qui je trouve fait énormément de dégâts socialement, encore une fois économiquement, politiquement, jusque dans les familles. Hein. Et il y a énormément de mots, par exemple, moi, que je me refuse à utiliser tant, en fait, ils ont été intégrés comme s'adapter. S'adapter, c'est un mot que j'utilise plus. Je me refuse à l'employer parce qu'on le voit partout. On le voit dans les annonces de Pôle emploi. On l'entend dans les bouches de ceux qui gouvernent. Et il est devenu, en fait, un mot symbolique pour nous dire qu'il faut se débrouiller, en fait, parce que c'est ça. Et toujours se rappeler que voilà, les mots ont un sens, mais dès lors qu'ils sont employés pour être dévoyés, pour arriver à des fins politiques extrêmement inégalitaires, là, ça me semble quand même urgent d'être dans une réaction d'écriture et une réaction, j'ai envie de dire, quasiment sémantique. Et moi, j'ai le sentiment que les auteurs, pour beaucoup d'entre nous, parce que, par exemple, je pense que c'est le cas de Nicolas Mathieu, de plein d'autres auteurs, c'est son nom qui me vient là, mais il y en a beaucoup d'autres, où on a vraiment le sentiment qu'on a une responsabilité sémantique, et ça, il faut absolument s'y attacher, parce que c'est par les mots aussi qu'on pourra construire un sens commun à une formation de la société.
Et c'est en ce sens-là que la littérature est politique, même quand les récits ne sont pas forcément directement politiques.
Oui, moi je pense que on peut tout évoquer, on peut même évoquer une voiture qui roule dans une ville. Je pense que même si on faisait qu'un livre là-dessus, je pense qu'il y a toujours une dimension politique. D'abord parce que la littérature, c'est une forme de représentation, et qu'à partir du moment où on représente quelque chose, ça passe par nous, ça passe par notre filtre, par ce qu'on est, par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a vu, par nos souhaits, nos souhaits politiques. Et à cet égard, moi, il me semble qu'il n'y a pas de littérature qui ne soit pas politique. Ouais. Je pense qu'il y a toujours un sens, un désir. Et oui, comme je le disais, une responsabilité quasiment sémantique de se dire ces mots-là qu'on veut employer, pas parce qu'on veut avoir raison, mais parce que c'est l'horizon de la société qu'on veut atteindre, en fait, et qu'on voudrait préserver.
Il y a dans ce roman une scène, il y a beaucoup de scènes qui sont marquantes, mais il y a notamment une scène de procès où j'y pense là parce qu'il y a cette question de regard de différentes personnes qui parlent et de voir comment est-ce qu'un événement, une chose, ben voilà, est perçue, est vécue surtout par différentes personnes. C'est le moment où l'atelier où il y a les machines de timonier est pillé, ou en tout cas les machines sont démontées, et donc il y a le procès des artisans qui sont soupçonnés d'avoir démonté ces machines. Comment est-ce que vous avez travaillé ce passage? Est-ce que ce passage, que je trouve moi très important dans le roman, est aussi un passage pour vous très important dans l'écriture même de ce roman?
Il est extrêmement important, notamment parce que en fait, on ne sait pas si ces machines ont vraiment été détruites. Et donc, moi, j'ai dû faire un choix narratif. Je me suis dit, oui, mais alors, si elles n'ont pas été détruites, et que je fais une scène de procès, ça n'a pas de sens. Si je dis qu'elles ont été détruites en sachant que peut-être on ne sait pas si elles ont été détruites, je mens. Ce qui est peut-être pire, parce que je ne peux pas me servir de ces personnages qui auraient été arrêtés comme ça. Donc, j'essaye de jouer avec cette réalité, avec ce trouble. Qui est dans les archives, en me disant, admettons que c'était ça, moi, il me plaît à l'imaginer ce qui s'est passé dans ce procès. Et en effet, là, pour moi, c'est vraiment un passage important que je me suis beaucoup amusée à écrire, malgré son aspect extrêmement tragique, parce que ça permettait de confronter notamment plusieurs versions qui sont que les artisans détruisent les machines parce qu'ils s'opposent au progrès, parce qu'ils sont ignorants. Ce qui est en fait une fable. De la même manière, on nous dit aujourd'hui, ceux qui s'opposent à l'outil numérique ou au progrès de telle ou telle chose, c'est parce qu'il faut, il faut vous adapter, précisément. Voilà, ça sera leur mot. Et donc, on voit bien que quand même, là-dessous, il y a une embrouille. On se dit, mais non, ça ne peut pas être que ça. S'il y a une opposition, il faut toujours comprendre les termes de l'opposition. Et l'opposition, elle est beaucoup plus intelligente que ça. C'est qu'en fait, il y a des, elle cache des inégalités, une répartition du travail qui ne serait pas égale, que les transitions ne peuvent pas, entre le manuel et le technique, ne peuvent pas se faire d'un seul pan. Il faut des transitions et il faut garder certains. Moi, l'argument de se dire, par exemple, on fait des vêtements militaires, mais en fait qui ne tiennent pas, donc on ne peut pas avoir une armée si on commence à leur dire qu'on les coud à la machine. Enfin, bonjour l'idée du progrès là-dessus. Et en plus, c'est sur l'armée qui est censée quand même incarner un certain prestige et l'idée de la défense d'une nation. Donc je trouve ça quand même assez passionnant de se dire, en effet, en fait, là encore, il y a beaucoup de contradictions, et ça permet aussi de rétablir cette vérité que les artisans, en fait, sont des gens très éduqués et qui savent très bien, en fait, pourquoi ils ne s'opposent pas aux machines. Ils contestent la façon dont on les utilise, ce qui est notamment leur utilité à des fins politiques et économiques, ce qui est quand même pas exactement la même chose que de penser que ce sont de simples sauvages qui cassent tout, quoi.
Et il y a cette phrase qui est reprise, pas de misère, pas de colère, qui fait aussi écho à des choses qui se passent aujourd'hui en France, et de se dire, effectivement, on peut pas comme ça oppresser, enfin on peut, la preuve, puisque ça existe, mais oppresser les gens et s'attendre à ce que tout le monde sagement dans son coin continue à faire comme si de rien n'était.
Oui, oui, non, mais c'est ça, absolument. Cette phrase, elle m'est venue un petit peu comme ça, elle sonnait bien. Mais moi, je crois que je l'ai appris d'abord par ma propre vie auprès de mes parents, bien que je n'ai pas eu une vie misérable à proprement parler. Mais enfin, mes parents ont rencontré, du fait de l'exil, des difficultés parfois matérielles et financières. Mais je crois que je l'ai surtout appris. Moi, j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années. J'ai enseigné d'ailleurs, on n'a pas besoin d'enseigner dans des quartiers isolés ou comme on dit, difficiles, pour s'en rendre compte. Mais on a toujours des élèves dans des classes qui ne mangent pas à leur faim et qui sont dans des situations familiales où les parents peinent vraiment à joindre les deux bouts. Et je me suis toujours rendu compte qu'en fait, les enfants qui étaient toujours un peu ailleurs, un peu contestataires. C'était quand même des enfants qui étaient dans une souffrance, mais pas psychologique. Ils étaient d'abord dans une souffrance matérielle, en fait. Et un enfant qui ne mange pas à sa faim, c'est un enfant qui est énervé. Et en fait, il a tous les droits d'être en colère. Et je trouve que c'est déjà un bon point de départ pour... Enfin, ça devrait être un bon point de départ pour résoudre quelques déséquilibres politiques, de se poser cette question-là. Et en France, voilà, tout récemment, de toute façon, on a eu les gilets jaunes, mais enfin, voilà, mais c'est le cas, je pense, de beaucoup de contestations. Hein. Il y a eu déjà des manifestations contre la loi travail, enfin contre les réformes de Pôle emploi, par exemple. Il apparaît évident que dès lors qu'on s'attaque en fait au quotidien des individus dans une société qui les rend plus pauvres ou qui les précarise, en tout cas, on peut pas rester. Enfin, ça ne peut pas ne pas provoquer de colère. Ça me paraît. Enfin, ou alors on est arrivé à un point de dictature qui serait très très inquiétant. Mais c'est plutôt ça en fait que les gens s'énervent pour dire qu'ils n'ont plus rien à manger. Ça me paraît plutôt humain.
Et ce qu'est devenu aujourd'hui la maison de Barthélémy Timonier, vous l'écrivez dans le roman, finalement correspond assez bien à ce qu'a été sa vie, et ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il y a le musée et dans la rue qui porte son nom, en contrebas, il y a sa maison qui aujourd'hui sert de refuge.
Oui, voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on m'avait glissé pendant ma résidence. C'était un peu officieux. Mais on sait très bien qu'il ne faut pas dire grand-chose aux auteurs, parce qu'ils ont un peu tendance à tout réutiliser. Donc je ne sais pas trop si...
Oui, mais il y a une confiance immédiate avec les auteurs, où on a l'impression que ça ne pourra pas ressortir, voilà. Qu'il y a le secret, alors qu'en réalité...
Ouais, c'est ça. Donc sa maison, c'est sa maison. Hein. Il y a un prototype de sa machine en fer devant. Je crois qu'il y a des images hein, sur Internet, on peut la trouver. Voilà, donc c'est voilà une petite maison. Donc la mairie l'a pas transformée, mais le maire, bon, c'est un tout petit village hein, qui est perché dans la vallée du Rhône. Mais visiblement, le maire, lui, a fait ce choix parfois de glisser ses clés pour abriter temporairement et exceptionnellement. Donc c'est pas comme si ça avait été transformé en refuge ou etc. Mais j'avais trouvé ça vraiment touchant quand on me l'avait glissé et je trouvais qu'encore une fois, c'était un peu quand même rendre honneur à Timonier que de dire ce qu'a été sa maison, parce qu'elle a vécu plusieurs choses, puisqu'il y a une association qui l'avait d'abord investie pour y mettre des machines de toutes sortes. Puis les machines ont été transposées en fait en face à l'hôpital qui est devenu le musée de la machine à coudre et du cycle, le musée Barthélémy Timonier. Mais voilà, je trouvais que cette maison qui était en face, qu'elle n'ait pas été délaissée. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez touchant de savoir que un homme politique, un maire, ait décidé de se dire autant qu'elles ne servent pas à rien. Enfin, je me dis qu'en fait, si toutes les maisons de ceux qui, comme la maison Victor Hugo, si toutes les maisons en fait des auteurs qui ont lutté contre la misère servaient à ça, je trouve ça vraiment émouvant, moi. Je trouve ça vraiment beau.
Depuis tout à l'heure, on parle de ce roman à la machine. On voit que il y a énormément de choses. Qui sont charriés dans ce roman, à la fois sur la vie de Barthélémy Timonier, sur la société de l'époque, sur votre histoire à vous. Et pourtant, c'est un livre qui n'est pas très épais, un peu moins de 200 pages. Comment est-ce que vous l'avez travaillé ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression, quand on ressort de cette lecture, effectivement, d'avoir reçu énormément, alors qu'il se lit finalement assez rapidement. Est-ce que ça a été un long travail de réussir justement à être dans cette économie de mots, mais même cette scène de procès qu'on évoquait, où ça aurait pu partir dans un procès fleuve avec des plaidoiries très longues. Là, en l'occurrence, c'est à chaque fois des passages très courts et très marquants. Et on sait bien que pour arriver à une certaine simplicité, ça demande énormément de travail, parfois, pour certains en tout cas. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Est-ce que, pour arriver finalement à cette forme finale du roman, il a fallu beaucoup retravailler l'écriture, repasser derrière, couper des choses, ou est-ce que finalement ça a été assez naturel dans l'écriture même ?
Je saurais pas trop vous répondre je vais essayer, hein, mais je saurais pas trop vous répondre parce que, enfin, Moi, je me dis pas, je vais faire un grand roman sur la vie de Simonier. Enfin, ça serait pas la question de s'y perdre, mais. Moi, j'ai écrit ce que j'ai à écrire. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Après, si ça fait moins de 200 pages, ça fait moins de 200 pages. On me le disait aussi pour Poulet, on disait oui, c'est un livre très court, finalement, il se passe plein de choses. Bah oui, mais moi, quand j'écris, j'écris pas en termes de signes. J'ai mon roman mentalement, d'abord, je le promène partout. Et voilà, alors après,
Les choix se font à l'écriture même.
Mais ça. Voilà, en fait, il faut que les choses glissent. Donc. Voilà, on les met. Après, moi, j'avais plein de notes. Peut-être que si j'avais eu envie, peut-être que j'aurais pu me dire je m'arrête, je le reprendrai dans 6 mois et peut-être que j'aurais retravaillé, augmenté le récit. Moi, c'est un texte que j'ai en tête, en tout cas depuis 5 ans. Il fallait un moment que ça s'arrête. Et j'ai pas écrit pendant 5 ans, mais en tout cas, voilà, j'avais des lectures, j'y pensais tout le temps, j'avais vraiment des questionnements narratifs, littéraires, vraiment pesants, quoi. Me dire, et comment j'enchaîne ça avec ça, et ça, il faudrait que ça y soit, mais enfin. Donc, il y a un moment, quand la charpente, elle tient, il vaut mieux que la maison soit petite et solide que grande et branlante, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et je pense que. En littérature, c'est très difficile d'évaluer un roman à son nombre de signes ou à sa longueur.
Surtout que vu le sujet, on se dit il y a tellement de choses à raconter qu'on peut imaginer ça compliqué justement de se dire de pas perdre le fil justement de ce qu'on a envie de raconter vraiment et de se dire c'est vraiment juste ça que j'ai envie de raconter et de pas se perdre en lisant des biographies ou d'autres choses en disant oh je peux rajouter ça parce que c'est sympa de le raconter. C'est aussi
non,
ça.
Non mais c'est vrai que j'aurais pu me perdre par exemple. Commencer à la naissance. Timonier, par exemple, sa vie se limite pas en fait à son mariage avec Madeleine et à son fils Étienne, parce qu'en fait, il a été marié auparavant. Il a eu des enfants en fait d'un premier mariage et sa femme et sa première femme en fait est décédée. Je crois qu'elle est morte en couche, mais je suis pas sûre. J'aurais très bien pu, moi, reprendre tout ça, mais ce n'était pas mon principe narratif premier. Sinon, j'étais dans une biographie, j'aurais pu réinvestir plein de choses historiques. Ça m'ennuie un peu d'avoir à reprendre des choses historiques pour les traduire de manière romanesque. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt de me dire je vais construire cette relation avec son fils parce que c'est le fils avec lequel il a eu le plus d'échanges et son fils devenant militaire et devant s'attacher en fait à ce statut pour ne pas revenir à un statut de misère. Je trouvais ça quand même assez passionnant. Je trouvais
sachant
la figure de la brodeuse.
Sachant que lui s'était coupé les doigts pour échapper
absolument,
à l'engagement.
Voilà, ça, je trouvais que c'était une correspondance vraiment, vraiment passionnante. Donc, j'aurais pu en effet élargir et raconter plein de choses. Moi, j'ai pris un axe, j'ai fait un choix. Voilà, moi, je sais que j'ai des ouvrages... Autant, voilà, je peux adorer, par exemple, le dernier roman de Mauvigné, hein, qui est un immense labyrinthe, et c'est époustouflant. Mais moi, dans mes livres préférés, j'ai aussi Construire un feu de Jack London, et ça fait 30 pages. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, en littérature, on ne peut pas se dire « j'écris un grand roman » ou un long... Ce serait synonyme d'un long roman. Moi, j'écris ce que j'ai à écrire.
C'est extrêmement réussi à la machine. Vous disiez, on évoquait au tout départ, l'aspect sentimental. On disait Barthélémy vous a eu parce qu'il y avait ce lien avec votre mère, parce qu'aussi sa vie a fait que vous vous disiez « ah tiens, quand même, il y a quelque chose où on s'attache à ce personnage qui pas de chance en fait et qui est trop honnête par rapport à d'autres qu'il rencontre. Vos précédents romans aussi étaient encore plus directement très très personnels dans l'écriture. Le déclic d'écriture vient toujours de quelque chose de sentimental. Il y a besoin de s'accrocher vraiment à son sujet. J'imagine que pour y passer 5 ans justement, il faut au-delà de ça vraiment voilà se plonger complètement et être happé et être intéressé et avoir envie de raconter ça. Mais il y a dans cette idée de déclic toujours cette chose très, très personnelle.
Moi, je ne saurais pas trop vous dire. Moi, quand j'ai écrit sur Timonier, alors c'est vrai qu'il y avait le lien de cette conversation avec ma mère. Comme je le disais tout à l'heure, les passages qui la concernent sur la... sont arrivés finalement assez tard, parce que justement, moi, à un moment, je m'étais dit, pour le dire rapidement, arrête d'écrire sur toi, voilà, écris sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est un peu, voilà, un peu gênant aussi, peut-être. Mais bon, finalement, ça m'a rattrapé. Puis mon éditeur m'a rattrapé, en fait, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai vu 5 lignes et je trouve que tu devrais pousser de ce
petit
côté-là.
À petit, tout après des petits passages.
Et... Oui, voilà, donc voilà, on y vient toujours. Après, je crois trouver un équilibre assez sobre entre l'intime, en fait, que je rends toujours public. Pour moi, l'intime est une question politique. Il faut trouver cet équilibre. Je crois que je m'en sors pas trop mal, donc je me permets de le faire.
Je peux dire que vous en sortez très bien.
Merci Sonia. Donc voilà, mais à dire vrai, c'est vrai que Pool D, c'était sur ma saison en amateur dans un club de football. Avec des filles de mémoire. Donc, c'était sur une expérience de tentative de viol vécue. Mais en fait, c'était jamais ça n'a jamais été un besoin de me dire j'écris, il faut que j'écrive là-dessus. Comme je l'ai dit dans des interviews, par exemple, pour de mémoire, moi, c'est vraiment à la fin du procès, quelque chose m'est apparu où je me disais mais c'est fou comme c'est littéraire, en fait, cette histoire de toujours faire répéter, en fait, à celles qui ont le statut de victime, ce récit sans cesse. Et je me disais, mais c'est un moteur littéraire, je devrais écrire là-dessus. Ce livre, il n'était pas du tout prévu, et je l'ai écrit alors que je devais écrire sur À la machine, donc j'ai intercalé là. Et pour Pool D, c'est pareil, je n'avais pas envie d'écrire sur le football. Il s'est trouvé que moi, je voulais écrire un roman drôle. C'est toujours ce que je dis, je voulais écrire un roman comique, mais je n'avais pas vraiment de moteur encore narratif. Il s'est trouvé qu'en intégrant ce club, je me suis dit, mais en fait, voilà, ça c'est drôle, en plus c'est politique, enfin voilà, on peut aborder beaucoup de choses. Et mon tout premier livre, qui était un roman pour la jeunesse, pour le coup, n'a rien à voir avec moi.
C'est vrai, je ne l'ai pas cité celui-là.
Donc, je n'avais pas commencé par parler de moi, en fait.
Mais il y a cette notion politique, il y a aussi une notion de liberté qui revient beaucoup dans vos romans, l'importance de la liberté. Merci beaucoup,
Merci à vous, Sonia,
d'avoir
merci
été
vraiment,
avec nous à La Machine.
Merci pour l'invitation.
C'est publié aux éditions Gallimard, difficile. Collection L'Arbalète, et je vous le recommande à toutes et à tous très chaleureusement.
Merci Sonia, c'était super d'être à vos côtés. Merci beaucoup.